Bibin, le magazine qui explore, qui voyage, qui découvre. Suivez nos micros sur les chemins de traverse.
Ça marche mieux avec la fougère ?
Nouri Bin nous emmène dans la cour de l'école publique de Morgat.
Donne-moi des fouillères !
Par cette agréable journée du mois de mai 2025, une vingtaine d'enfants sont dehors, ils s'activent autour de morceaux de végétaux posés sur des bâches. L'ambiance est à la fois joyeuse et studieuse. On assemble les éléments et c'est parfois un défi parce qu'il n'est pas question de colle ni de ruban adhésif. On doit faire uniquement avec ce que la nature a fait pousser.
Pour que ça tienne, il faut que vous fassiez tenir en haut. C'est un peu le principe de faire des triangles. Et là, en fait, il y en a un qui tient l'autre. D'accord ? Et ça, c'est beaucoup plus solide. Donc ça, c'est un petit... Quand vous voulez partir en volume, il faut que vous réussissiez à pas justement mettre juste un triangle vers le haut, mais deux triangles vers le haut. Et que les deux triangles se tiennent. Et donc là, c'est ce qu'on voit sur celle de... sur la petite sculpture qu'elles ont fait, les filles. Ça marche parce qu'il y a deux triangles. S'il y en avait qu'un, eh ben, ça serait tombé vers le bas.
Delphine Kermel est chargée de mission projet culturel pour le parc naturel régional d'Armorique et c'est le parc qui est à l'origine de toute cette créativité.
Ce projet, c'est un projet artistique et culturel qui permet à quatre écoles de la presqu'île de Crozon et de d'Aoulas de travailler ensemble avec des artistes sur leur aire éducative. C'est un petit espace de nature dans lequel les écoles vont régulièrement. Les élèves sont gestionnaires de ce petit espace. Et là, il s'agit de proposer une approche artistique pour redécouvrir autrement cet espace de nature. Et c'est aussi un projet collectif parce que les élèves, chacun dans leur école et chacun sur leur aire éducative, vont travailler ensemble avec les artistes pour, à la fin de l'année, réaliser une œuvre commune, une œuvre collective. Et cette œuvre-là, elle va être pour eux une façon de contribuer à la préservation de ces espaces naturels et aussi de partager cet espace naturel avec les visiteurs, avec les promeneurs de ces espaces-là pour leur faire comprendre toute la richesse de l'aire éducative et de la nécessité de les protéger.
Quelles sont les écoles représentées et quels sont les types d'aires éducatives terrestres ?
Alors, les écoles dans ce projet sont l'école de Morgat, où on est aujourd'hui, l'école de Saint-Fiacre, à Crozon aussi, l'école de Camaret et l'école de Daoulas. Et ces écoles, elles ont des aires éducatives qu'on dit maritimes, marines ou terrestres, en fonction de leur localisation. Et ici, à Morgat, il s'agit d'une aire marine qui se déploie sur une partie du bois de Morgat et puis une partie du port.
L'aire marine éducative, c'est Julie Rogues, la directrice et l'enseignante en CP, CE1, CE2 à Morgat, qui va nous expliquer à quoi elle ressemble exactement.
Depuis septembre 2023, nous avons une aire marine éducative qui se situe au niveau de la crique du Cador. Alors la première année, on a travaillé en partenariat avec la Maison des Minéraux et on a travaillé sur la géodiversité, donc étudier les strates, les galets, le sable et également la biodiversité. Et on a aussi travaillé en partenariat avec le Parc naturel marin d'Iroise pour découvrir, avoir des connaissances sur le plancton, sur les raies, les requins. On a eu beaucoup d'interventions sur le volet maritime. Et cette année, grâce au PNRA, donc, nous participons à ce projet. Et ce qui nous permet de travailler plus sur la partie, la partie terrestre de notre aire éducative. Donc au début, on s'était limité à l'étude de la crique du Cador. Et en fait, on a vu que la plage de Morgat était aussi très intéressante au niveau de la biodiversité. Donc elle s'étend finalement jusqu'à devant l'école. Et il y a aussi une partie bois du Cador, parce que c'était aussi intéressant que les enfants découvrent ce bois qui est à proximité de l'école.
Et là, ils ont investi la forêt et ils ont collecté pas mal d'éléments. Mais ça, c'est l'artiste et les élèves qui vont vous expliquer le propos.
Anne Da Silva, donc, je suis artiste plasticienne et je fais essentiellement de la sculpture avec plutôt des matériaux issus du monde naturel.
Donc là, on est en plein dedans. En quoi consiste, de votre côté, le projet mené avec le parc et l'école ?
Donc moi j'interviens en tant qu'artiste d'une association qui s'appelle L'Enhardi qui est une association ressources pour la pratique des arts et l'intervention artistique. Et là, on a été invité à intervenir avec des écoles de la presqu'île dans le cadre des aires éducatives terrestres et marines. Et donc le projet, il y a quatre écoles qui participent. On est trois artistes à proposer des ateliers d'approche par un regard artistique de leur aire éducative.
Un petit mot des deux autres artistes.
Donc il y a Aurore Colliou, qui est artiste dessinatrice naturaliste, qui travaille avec l'école de Camaret, et Rachel Laprairie, qui est artiste plasticienne, qui travaille la sculpture, aussi le dessin et la peinture, et qui travaille avec l'école de Daoulas.
Qui sort de la presqu'île pour le coup. Voilà, oui. C'est toujours oui, des enfants de CPCE1, CE2, c'est ça?
Alors, c'est à chaque fois des enfants d'école élémentaire, mais non, je crois qu'à Camaret, à Daoulas, c'est des élèves de CM.
Alors les artistes, c'est trois artistes du territoire du parc naturel. En fait, elles ont été choisies d'abord parce qu'elles avaient une démarche collective. Elles ont des pratiques et des univers qui sont bien à elles, mais elles avaient envie de travailler ensemble. Et c'est cette approche collective qu'on trouvait très intéressante. Et aussi, tout leur travail s'inspire beaucoup du lien à la nature. Et donc, c'était un peu comme une évidence de faire appel à elles pour ce projet-là.
Anne da Silva est en effet installée à Rosnoen. Aurore Colliou est à Anvec, Rachel Laprairie à Daoulas, donc ce sont bien des artistes locales.
J'habite une maison citrouille, à petit peton, le soleil est rond. J'habite une maison citrouille, à petit peton, le soleil est rond. J'aime les grenouilles et la pluie qui mouille, et l'omelette au hanneton. Et l'omelette au hanneton.
Alors là, on a un gros nid. Je fais une expérience, je le mets à l'envers. T'es d'accord? Pas mal. Pas mal. Alors, est-ce que si il avait pris juste tous ces éléments et qu'il avait... Alors, j'espère que c'est pas ça que t'as fait. Hein. Mais qu'il avait posé, qu'il avait juste tassé comme ça, est-ce que vous pensez que ça aurait tenu comme ça?
Non.
Là, on voit bien, donc c'est un peu ce que t'as fait avec les aiguilles de pin. Les aiguilles de pin, t'es peut-être allé un peu plus vite au niveau des aiguilles de pin.
Oui.
Mais bon, ça tient quand même.
Mais quand même, j'ai essayé de faire dessous avec les touffes d'herbe.
Voilà. Là, ce qui est intéressant dans son nid, c'est qu'il a vraiment plein de matériaux. Là, on pourrait croire à un petit nid d'oiseau quand même. Hein. Le petit oiseau qui va chercher un peu tous les différents matériaux et qui les assemble. Et donc, effectivement, on a l'herbe qui donne toute la structure, l'herbe et le jonc qui donne toute la structure. Et après, ça permet de faire des emmêlements.
Donc, on a commencé par aller visiter ensemble leur aire éducative, à réfléchir à qu'est-ce que pouvait leur évoquer cet environnement, qu'est-ce qu'ils y observaient. Là, en l'occurrence, on est dans le bois du Cador, qui a subi aussi une grosse transformation du fait de la tempête. Donc, il y a beaucoup d'arbres qui ont disparu. Assez rapidement, le regard des enfants s'est orienté vers la vie qui vivait sur place dans ces bois. Donc, forcément, essentiellement la faune, mais aussi avec un regard assez attentif à la flore. Et on s'est posé un peu la question donc, de qui habitait là et comment, et aussi de voir comment est-ce que la tempête avait pu changer un peu les modes d'habitat du fait de l'absence des arbres de plusieurs animaux. Et très rapidement, il y a eu cette envie de construire des abris pour la petite faune locale. Et donc à partir de cette envie-là des enfants de faire des cabanes pour les animaux, on a commencé à essayer de rentrer dans un protocole de travail.
Moi, mes cabanes, c'est pour des petits animaux. Du coup, ils pourront aller dessous et aussi au-dessus. Et j'ai fait, sur une des cabanes, il y a un petit endroit où les insectes y pourront aller.
Je fais des cabanes pour les cloportes, les fourmis, d'autres insectes. Je mets des brindilles dessus et voilà.
J'habite une maison patate, à petit peu tout chante le coucou. J'habite une maison patate, à petit peu tout chante le coucou. J'ai du poil aux pattes, j'aime les tomates, et tirer la queue du hibou, et tirer la queue du hibou.
Donc l'idée au départ, c'était de s'inspirer des méthodes de construction animale. Donc on a regardé quand même un peu attentivement comment les animaux pouvaient construire. Donc de là, on a vu qu'il y avait des animaux qui étaient plutôt des tisseurs, d'autres qui étaient plutôt des bâtisseurs, maçons, des animaux plutôt qui creusent, des animaux qui font du papier. Donc on a regardé un peu comme ça toutes les savoir-faire des animaux architectes.
Des animaux architectes, et oui, comme les humains donc. D'ailleurs, le projet a permis de faire le parallèle entre construction animale et construction humaine.
Le parc, dans ce projet-là, apporte un rôle de coordination.
Delphine Kermel.
Puis de suivi du projet, et on intervient aussi sur site pour apporter aussi d'autres regards sur les patrimoine bâti aussi, parce qu'il y a toute une réflexion sur les abris, l'habitat, etc. Donc on travaille beaucoup sur le patrimoine maritime de ces différents espaces avec les usages présents et passés de ces espaces-là, parce que les élèves font tout un travail également sur comment ces espaces sont utilisés aujourd'hui, qui vient sur ces espaces, quelles sont les activités. Donc quand on travaille sur le patrimoine bâti, par exemple, de ces aires éducatives, eh ben, on a un bel aperçu du passé, mais aussi du présent, et puis de la réutilisation de certains bâtiments. Il y a des phares, il y a des petits forts, il y a aussi les constructions balnéaires, quand on parle de l'ère de Morgate, mais il y a aussi toutes les patrimoines liés à la pêche et aux différentes activités. Donc, ce projet, tout au long de l'année, permet aux élèves de découvrir ou de redécouvrir tout ça, avec un accent mis, bien sûr, sur les patrimoines vivants, parce que la clé d'entrée, c'est bien comment on connaît mieux et comment on respecte mieux le vivant sur ces aires éducatives.
J'habite une maison baignoire, à petit peu tôt dansent les crapauds. J'habite une maison baignoire, à petit peu tôt dansent les crapauds. J'aime les histoires, les pommes et les poires, et le bon gigot d'asticot, et le bon gigot d'asticot.
Tu fais une cabane pour oiseaux, et là je suis en train de leur faire un sol pour qu'ils soient confortablement dans leur maison.
Et alors le sol, tu vas le faire en quoi ?
En aiguille de pin, et puis après je vais mettre de la fougère par-dessus et puis plein d'autres choses.
C'est pour les oiseaux, c'est un nid et les oiseaux ils vont dedans. Et ici je vais faire dans les trous, je vais faire un toit pour pas que la pluie aille dedans.
Alors ton nid, il est en quoi ?
En argile, en aiguille de pin et en mousse.
Et le toit, il sera en quoi ?
En fougère et en paille.
Nous nous sommes rendus 3 fois dans le bois du Cador.
Julie Rogues, l'enseignante.
Une première fois avec Anne et Delphine pour découvrir l'endroit, parce que c'est vrai que nous, on s'était limité à l'étude de la crique du Cador et de la plage de Morgate. La deuxième fois, nous sommes retournés uniquement avec Anne et les enfants ont cherché des endroits où ils pourraient construire des habitats pour les êtres qui y vivent. Et nous sommes retournés aussi avec Delphine pour travailler sur les habitats, cette fois construits par l'homme. Il y a le fort Vauban, il y a aussi le phare du Cador. La première sortie avec Delphine, donc, qui consistait à découvrir le bâti par l'être humain, en fait, on s'est d'abord intéressé à l'arrivée au bois du Cador. Donc on est passé devant les commerces, le centre nautique, il y a différents restaurants. On a travaillé aussi les plans, premier plan, second plan, arrière-plan, c'est transdisciplinaire. Le projet artistique, il y a des compétences au niveau de la création, de la conception, mais il y a aussi des compétences psychosociales avec l'entraide, la coopération.
Sinon, on a vu tout à l'heure, il y a de la géométrie, il y a du vocabulaire, il y a ça aussi, non ? L'histoire
Oui. Voilà, ils apprennent aussi comment, ou les vieux métiers aussi, le tissage, comment on fait des paniers en osier.
En fait, moi, j'ai fait une chose pour les oiseaux. Je vais un peu l'agrandir avec des choses de la nature. Et ça va être un peu comme si c'était la nature qui l'a fait. Et j'en ai fait une autre, là un endroit où il aura des graines et un autre endroit où il aura de l'eau. comme ça, les oiseaux ils vont rentrer et manger et boire. Et la petite dernière, c'est pour les insectes. Ils pourront venir s'abriter pendant la nuit.
On a d'abord commencé par faire une première construction qui est en argile, qui permet d'avoir à la fois une approche vraiment du volume assez facilitée pour les enfants et en même temps d'avoir un matériau qui va rester, qui va devenir pérenne parce qu'on l'a cuit. Donc on a travaillé avec des différents grès pour le coup qu'on n'a pas ramassé sur place, même si ça aurait pu, mais bon, on n'a pas le temps non plus d'emmener les processus jusqu'au bout. Donc les enfants ont commencé par faire des premières réalisations en grès qu'on a cuit dans nos fours. Les sculptures là sont terminées et maintenant on essaye d'explorer les autres gestes animaux, donc le tissage, la maçonnerie sauvage, on va dire, avec les matières ramassées sur place, et puis plutôt après les assemblages, les collages. Et à partir de là, les enfants vont faire des extensions à leurs petites sculptures en argile avec ces matières ramassées sur place et explorées dans une gestuelle animale.
Quand vous dites tissage et maçonnerie sauvage, c'est quoi ? C'est des plantes et des cailloux, c'est ça ?
Alors oui, pour le tissage, donc ce matin, je suis allée ramasser des matières sur l'aire éducative. Donc j'ai ramassé du jonc, des fougères, des herbes sèches, tout un tas de végétaux un peu longs qui peuvent se tisser. Et puis pour la maçonnerie, ça va être effectivement de voir comment est-ce qu'on peut faire des mortiers avec les argiles qu'il y a directement sur place, le sable, les cailloux, comment on fibre l'ensemble, donc voilà, de manière assez empirique. Mais,
Il y a vraiment des animaux qui font de la maçonnerie ?
Ah bah oui, il y a des guêpes, les hirondelles même, qui utilisent de la boue, donc souvent il y a plein aussi d'oiseaux qui peuvent mélanger à la fois l'utilisation de la boue, donc le côté collant de l'argile, et puis les fibres végétales.
C'est un nid pour les maisons, là je suis en train de mettre de la paille, après je vais peut-être essayer de faire une tresse pour l'accrocher dans les petits trous.
Il y a plein de choses très différentes. Il y a beaucoup de constructions pour les insectes. Donc là, ça peut prendre des formes très variées. Ça peut être des formes de petits terriers, mais il y en a qui font même des genres de parcs de jeux. Donc ça dépend vraiment de l'imaginaire des enfants.
Là, il y a une petite entrée. Et soit des fois, ils peuvent aller dans une petite salle. Et des fois aussi, ou sinon, ils peuvent monter par une petite salle d'escalade. Après, ils refont l'escalade. Ils passent dans un petit trou en haut. Et après, ils passent. Et après, soit ils ont l'accès à un rocher, un petit truc plein, gros, dans le vide, soit ils ont accès à un petit toboggan.
C'est pour qui, ils ?
C'est pour les insectes, les fourmis, les cloportes.
Tu penses qu'ils vont pouvoir s'entendre ?
Ouais.
Moi, c'est pour les cloportes. Comme ça, les cloportes vont venir. Et il y a un nid d'oiseau. Comme ça, l'oiseau pourra se servir de manger avec les cloportes.
Il va manger les cloportes ? Oui, donc c'est pas pour aider les cloportes ?
Non.
C'est pour aider les oiseaux ?
Oui.
Et là, qu'est-ce que tu vas faire avec les fougères ?
C'est juste la décoration.
Quand on a travaillé en argile, on a quand même des gestes qui viennent du fait de l'argile, qui vont être plutôt des grottes, des cavités. Là, ce matin, on a travaillé plutôt avec les fibres végétales. Donc là, effectivement, on s'approche plus du nid. Donc d'une certaine manière, la matière qu'on utilise va induire quand même un peu la forme. Mais on a quand même des diversités de formes en fonction des animaux qui projettent pouvoir accueillir, qui sont assez différentes.
J'ai fait un nid pour les oiseaux.
Et alors, qu'est-ce que tu es en train de faire là maintenant ?
De tisser pour comme au-dessus c'est ouvert pour que ça soit pour pas que la truie des animaux elle rentre pour pas les manger.
Ouais, ça leur fait un petit toit quoi. Tu leur fais un petit toit en quoi, en fougère ?
Non, avec un peu des feuilles de pin.
Comment les enfants réagissent quand c'est la séance
Alors, ils aiment vraiment bien les séances, les interventions extérieures. En plus, on a du matériel. Ils ont adoré manipuler l'argile. Et là, ils découvrent beaucoup de choses.
Alors, ils ont manipulé quel matériau, justement ?
Alors, la dernière séance, ils ont manipulé de l'argile. Et cette séance-là est consacrée aux matières naturelles, donc du saule, il y a de la fougère, des écorces, voilà, ce sont sur les matériaux naturels qu'on trouve sur notre aire éducative.
Ce qu'on avait projeté ensemble, c'était l'idée de pouvoir faire des excroissances, des continuités à vos cabanes. Donc n'oubliez pas les gestes qu'on a vus dehors. Là, ce que je vous vois plutôt planter et je vous vois plutôt déposer. N'oubliez pas qu'on cherche à tisser. Et donc l'idée de faire des arches, ça peut vraiment vous aider à rentrer dans la construction. Alors peut-être aussi, il faut que vous faites attention à vos ciseaux, parce qu'une fois que vous avez des ciseaux dans la main, vous n'avez plus qu'une envie, c'est de couper. Alors que, en fait, là, peut-être qu'il ne faut pas tellement couper, il faut peut-être plutôt chercher à plier. Donc, restez dans l'élaboration de la construction qui agrandit vos cabanes. L'idée, ce n'est pas de les décorer, vos cabanes, elles sont déjà très belles, c'est de les agrandir.
C'est la première fois que le parc menait ce type d'action culturelle sur les aires éducatives ou pas ?
Alors, les aires éducatives, c'est un dispositif national de l'Office français de la biodiversité.
Delphine Kermel, chargée de mission projet culturel pour le parc naturel régional d'Armorique.
Et sur le territoire du parc, le parc naturel propose une coordination en fait, de ces écoles en projet d'aire éducative. Donc là, c'est ma collègue Catel Guillou qui est sur cette coordination globale. Et ce dispositif-là, dispositif national, il est plutôt axé sur la biodiversité avec des protocoles d'observation, etc. Sur la biodiversité. Et là, pour le coup, le parc naturel apporte propose en tout cas une démarche un peu différente, un regard différent comme ce type d'action artistique et culturelle. Mais par le passé, on a pu aussi travailler, d'ailleurs avec votre radio, encore une fois, travailler ensemble, parce que l'objectif du parc, c'est aussi de créer du lien entre toutes ces écoles. Et ils avaient travaillé ensemble par la réalisation de petits podcasts. Ils s'étaient interviewés mutuellement. Ils avaient pu faire découvrir leur aire éducative, mais aussi découvrir celle des autres élèves. Donc le parc naturel, dans ce rôle de coordination des aires éducatives de son territoire, propose aussi des démarches qui vont permettre aux écoles et aux élèves de travailler ensemble et de se rencontrer. Parce que sinon, chacun travaille dans son école, dans son aire éducative, ce qui est déjà fort intéressant. Mais là, la proposition du parc, c'est aussi que les élèves puissent bien percevoir qu'il s'agit d'un réseau d'écoles qui sont en projet, un réseau d'écoles qui se mettent en action pour préserver la biodiversité et les patrimoines de ces aires éducatives.
À chaque fois, comme je travaille sur des projets, j'essaye d'adapter le contexte et un peu les thématiques à ce qui peut se proposer avec les envies des enfants. Mais après, oui, c'est des manières de travailler que j'explore depuis des années. Oui.
Et dans cet atelier-là, qu'est-ce qui est particulièrement intéressant pour vous ?
Alors, le contexte est très agréable, très très privilégié, à la fois parce que c'est une toute petite école avec un environnement naturel immédiat qui est quand même vraiment remarquable. C'est une petite classe avec des enfants très très curieux qui sont déjà vraiment sensibilisés et à la nature et on sent aussi même un aspect assez scientifique de l'approche du regard. On sent que c'est des enfants qui ont l'habitude d'être dehors et accompagnés. Donc c'est sûr que c'est un climat pour travailler qui est très favorable.
Et ils sont artistes particulièrement ou pas ?
De toute façon, les enfants de stage, moi j'adore. Je trouve pour moi, avec les enfants de stage, que c'est le plus plaisant de travailler. Parce qu'à la fois, ils élaborent déjà de manière très précise et en même temps, ils sont encore un peu sans filtre. Et ils n'ont pas encore toutes les appréhensions qu'on peut trouver dès le CM qui commence à quand même malheureusement arriver un peu trop vite. Donc là, tout est jeu, exploration, imagination et en même temps élaboration. Donc moi, je me régale.
Moi, j'ai fait un truc pour que ça tienne, le truc en argile, de la fougère et de l'herbe. Et après, je crois que c'est bon.
Morgat, c'est aussi le lieu de la rencontre finale entre tous les élèves qui auront participé au projet au cours de cette année. Donc, en juin 2025, les élèves de Daoulas, de Saint-Fiacre, de Camaret arrivent et ils sont 92 enfants à fêter la nature, les aires éducatives et l'art. C'est l'occasion de faire découvrir aussi le carnet du regard. C'est l'œuvre commune qui a été assemblée ce jour-là. Quant aux abris, cabanes, aires de jeu, nids douillets réalisés par les enfants de Morgat, ils ont trouvé leur place dans le bois du Cador, comme il se doit.
Tape du pied, frappe des mains, claque des doigts. Tape du pied, frappe des mains, claque des doigts.
Vous avez pu entendre au cours de ce ribbin la chanson de Pierre Chêne, Le Bien Nommé, et elle s'appelle elle-même cette chanson, J'habite une maison citrouille. Vous pouvez réécouter le projet qui avait été mené avec le Parc d'Armorique et Transistor sur les aires éducatives, autour de la radio bien sûr. C'est à réécouter sur le site internet de Transistor.
C'était Ribine, à retrouver sur transistor.bzh.